Vous êtes sur RTL.
Bonjour, bonjour et bienvenue en ce jour particulier. Et oui, un 29 février, ça n'arrive que tous les 4 ans. Heureusement, nous voilà bien, c'est tous les samedis de 9h15 à 10h sur RTL. Et aujourd'hui, bas les masques dans l'émission, on débusque les faux amis de notre vie quotidienne.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Et cette semaine, on teste la prévention contre les arnaques par mail et par téléphone. Vous savez, celles qui vous font croire que vous avez gagné des millions ou que votre banque a besoin de la mise à jour de vos informations personnelles. Comment savoir à qui on a vraiment affaire et comment se protéger? Réponse dans un instant. Vous pensez que les galettes de riz, les chips de légumes et les sushis sont light? Eh bien, vous allez découvrir la vérité sur les faux amis de l'alimentation avec Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Côté cuisine, Ligori, chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire, va vous révéler tous les secrets du riz. Bonjour Ligori.
Bonjour Flavie.
Tu es victime d'une injustice avec un très gros préjudice. Les choses peuvent encore changer. Appelle Julien Courbet.
Appelle Julien Courbet. Julien Courbet, on l'embrasse d'ailleurs, il nous écoute hein, peut-être ce matin. Vous le retrouvez tous les jours sur RTL du lundi au vendredi de 9h30 à 11h. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco à RTL. Alors avec vous justement, on va essayer de ne plus tomber dans le panneau des mails et des appels frauduleux. Ça consiste en quoi en fait?
Eh bien déjà un mail, bah, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un mail d'une entreprise que vous, ou d'une grande marque que vous pouvez recevoir. Typiquement un mail de la FNAC, un mail de votre opérateur Orange. Ouais. Ou alors ça peut être aussi un mail pour engager une conversation avec vous. Typiquement, comment allez-vous? Ou alors j'ai besoin d'aide.
D'accord,
alors,
mais de quelqu'un là, que je ne connais pas.
Que vous ne connaissez pas. C'est okay. Toujours évidemment le problème, et on en parlera évidemment tout à l'heure sur comment détecter ces fraudes-là. Et aussi, souvent, c'est des mails pour vous avertir que vous avez éventuellement gagné quelque chose. Alors la méfiance aussi, parce que souvent vous n'avez rien gagné, hormis des gros problèmes probablement.
Donc le coût du téléphone, le coût du vous avez gagné une somme astronomique, ouais. Le coût du vous avez été tiré au sort, vous êtes le premier. En général, on se méfie et on n'ouvre pas.
On se méfie, oui. Là, on parle des mails, mais on peut aussi parler effectivement du téléphone hein, ouais. et des appels. Il y a plusieurs types d'appels. Il y a aussi les SMS. Alors, le SMS, c'est vraiment la chose la plus simple parce que, évidemment, ça arrive directement sur votre portable. Et souvent, on vous dit, envoyez un SMS au 8 quelque chose, quelque chose. Évidemment, il ne faut pas le faire. C'est une arnaque. Mais il y a aussi des appels malveillants cette fois. Et alors là, ça peut se présenter de deux manières. Soit on vous appelle directement et alors là, on engage une conversation avec vous et on essaie de vous soutirer des informations personnelles. Ça
d'accord.
peut arriver. Ou alors, c'est une ou deux sonneries seulement. C'est ce qu'on appelle le ping call. Et donc, à la suite de ça, donc vous avez un appel en absence, évidemment. Alors parfois, ça peut arriver d'un 06, donc un numéro français que vous ne connaissez pas, que vous allez rappeler. Et du coup là, en fait, vous allez tomber dans un piège parce qu'il s'agit d'un numéro surtaxé par derrière et vous ne le savez pas.
D'accord.
Il y a aussi parfois des 08, alors ne les rappelez pas tout simplement, mais c'est tout le temps la même technique, une ou deux sonneries, un appel en absence et l'erreur que vous allez faire, c'est de rappeler.
Ouais.
Vous vous rendez pas compte tout de suite, évidemment, de l'arnaque et parfois, on va essayer encore une fois de vous dérober des informations personnelles. Là, ça peut franchement être compliqué, évidemment. Des numéros de carte bancaire.
Donc je peux avoir quelqu'un en ligne, absolument. Par exemple, qui va profiter de ma naïveté,
absolument.
Qui va simuler une situation d'urgence de banque, par exemple, en me disant, voilà, on doit vérifier vos données personnelles et par conséquent, donnez-moi votre numéro de carte. Ou,
c'est ça. Quelqu'un qui peut se présenter au nom de votre opérateur téléphonique, des choses crédibles, hein, ou alors, par exemple, un fournisseur d'électricité, des choses comme ça. Donc, il faut faire extrêmement attention, évidemment. Ça, c'est évident.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, justement?
Justement, on va parler du portable, notamment pour les appels. Il y a de plus en plus d'opérateurs qui mettent en place des applications pour vérifier ça. D'accord. Je pense notamment à l'opérateur Orange. C'est une application qui s'appelle Orange Téléphone et qui, en fait, est une application collaborative. C'est-à-dire que dès que vous installez cette application, si quelqu'un vous appelle, eh ben, vous allez avoir en dessous de votre smartphone appel malveillant potentiel. Ça veut dire que des gens ont déjà signalé ce numéro de téléphone comme étant potentiellement malveillant. Et donc ça, c'est une communauté en fait qui s'aide. Et je trouve que cette application est plutôt bien faite parce que du coup, à chaque nouvel appel entrant, parce que on va pas non plus ne pas répondre à tous les 06 qu'on ne connaît pas, parce que quand même parfois on a besoin de nous joindre. Là, typiquement, au moins vous avez un indice. Et quand il y a marqué potentiellement malveillant, en général, moi je décroche plus.
Et quel comportement est-ce que je dois avoir justement si j'ai en ligne quelqu'un qui me demande des informations personnelles? Parce qu'il forcément, ils vont pas m'appeler en me disant bonjour Flavie, donnez-moi votre numéro de compte. Il y a toute une sorte de piège qui est en train de se tendre. Ils ont un mode opératoire, ces gens-là.
Exactement, qui est souvent prédéfini à l'avance. Ils vont s'adapter évidemment à ce que vous dites et à vos réactions. Et très souvent, c'est le numéro de carte bancaire. Ou alors, vous pouvez bénéficier d'un remboursement. Ou alors, on doit vous rembourser une certaine somme. Donnez-nous votre RIB. D'accord. Donnez-nous votre carte bancaire. Vous la donnez parce que parfois, c'est tellement crédible qu'on y croit. Alors qu'en fait, non, pas du tout.
Alors, le phishing, c'est quoi? Parce que c'est quoi la différence entre un spam, un hameçonnage et ce fameux phishing dont on parle?
Alors, le spam, évidemment, c'est un nom anglais. Nous, on pourrait le traduire par un pourriel. Vous le savez, le nom du mail français, c'est le courriel. Or là, un spam, c'est un pourriel. C'est-à-dire, en gros, on envoie de manière massive plein de mails à plein de gens en espérant qu'effectivement, quelqu'un morde à l'hameçon. Et c'est pour ça que derrière, ça donne lieu à un phishing. Parce que tout simplement, c'est ce qu'on appelle un hameçonnage. Et donc, du coup, vous avez des millions et des millions de mails qui sont envoyés au fur et à mesure. Il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient crédules et ça marche pour eux. En fait, ce sont des listes de données, notamment les mails, qui sont tout simplement achetés sur le dark web. C'est une sorte de web, évidemment, que vous et moi, nous ne fréquentons pas.
Auquel on n'accède pas.
Exactement. Mais des millions et des millions d'adresses mails sont dérobées au fur et à mesure. Et donc, du coup, très souvent, votre mail, c'est votre nom, point, votre prénom, @, donc gmail.com, hotmail.fr ou autre. Okay. Et en fait, ce sont des mails qui sont envoyés par dizaines et par dizaines. Et vous avez l'impression qu'il est personnalisé, alors qu'évidemment, il ne l'est pas.
Quand on va essayer à un moment donné d'arnaquer quelqu'un, on ne va pas l'arnaquer de la même façon. Il y a des populations qui sont plus vulnérables. Moi, je pense aux personnes isolées, je pense aux personnes âgées, je pense aux gamins aussi. Est-ce qu'effectivement, à un moment donné, ils ont des profils de proie et ils s'y attaquent en sachant précisément où ils veulent aller?
Oui, très souvent, c'est typiquement des arnaques au remboursement. En général, j'ai appelé Darty hier, le groupe Fnac Darty. Comment ils font, eux, en interne, et de quoi ils sont victimes aussi? Parce que c'est un préjudice d'image,
bien sûr, pour eux aussi.
Parce qu'on usurpe l'identité de grandes marques. Typiquement, on vous envoie un mail en disant « voilà, vous avez effectué un achat pour un smartphone. Par contre, ce n'est pas tout à fait exactement ça que vous avez acheté et nous aurions besoin de vos coordonnées bancaires. Cliquez ici pour le remboursement. » Ça a l'air effectivement du magasin Fnac ou Darty qui vous écrit, mais en fait, pas du tout. Et souvent, on m'a expliqué d'ailleurs ce service sécurité qui bosse là-dessus, c'est en général des gros montants, c'est entre 500 et 1000 euros. Donc la plupart des gens sont crédules, vont aller jusqu'au bout et en fait ne regardent jamais l'expéditeur. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déjà regarder l'adresse de l'expéditeur. C'est évident et il faut faire très attention à ça parce que parfois les pirates, on va les appeler ils peuvent mettre typiquement @fnacx.com.
D'accord.
Vous faites pas gaffe, vous dites ah oui c'est un mail de la Fnac machin. Non. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il faut aussi regarder bien sûr ce qui est marqué dans le mail et très souvent il y a des fautes d'orthographe. Il y a un petit souci.
Mais je trouve ça dingue ça d'ailleurs parce que c'est pas compliqué quand même à un moment donné de faire un correcteur d'orthographe pour
mieux
réussir
s'améliorer.
Sa fraude quoi, c'est quand même bizarre.
Je suis d'accord avec vous.
Ils sont un petit peu pieds nickelés de ce côté-là.
Évidemment.
On va se retrouver dans un instant. Vous allez continuer à nous livrer des conseils de prévention. Vous l'avez compris, aujourd'hui, vous apprenez beaucoup de choses et surtout à ne pas vous faire avoir grâce à Arnaud Touche. On parlera aussi des faux amis dans l'alimentation avec vous, Laurence Plumet. Et puis du riz. Voilà, ça va vous donner envie de faire la cuisine avec Ligori. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous, nous sommes jusqu'à 10h sur l'antenne d'RTL avec Laurence Plumet qui va nous donner plein d'informations sur les faux amis de l'alimentation. Vous risquez d'être surpris, vous pensez bien faire, et bien ça n'est pas le cas. Et puis on parlera aussi du riz avec le chef du site Cuisine AZ, Ligori, mais pour l'heure.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Pirate ! Pirate !
Les pirates de type Piac, mais les pirates aussi que l'on retrouve à travers les mails et les appels frauduleux. On en parle avec vous, Arnaud Touche. Vous allez nous donner des conseils pour se sortir justement de tout cela. Dernièrement, j'ai reçu un mail et je voudrais vraiment qu'on puisse alerter nos auditeurs d'une personne que je connais qui me parlait de problèmes de santé, me demandant de la rappeler en urgence, alors que cette personne, je la connais, mais je ne la vois plus depuis 10 ans. J'ai failli tomber dans le panneau et ça, c'est ce qu'on appelle l'arnaque du chantage affectif.
Oui, c'est ça, exactement. Ça a marché sur vous dès le début parce que ça vous a alerté. Vous dites, mais mon amie, justement, n'est pas bien, elle me demande une aide immédiate.
Exactement.
Et le premier réflexe à se dire, c'est mais pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé déjà? C'est une première chose. En fait, ce qui se passe, c'est que les pirates, quand ils achètent des bases de données sur le dark web, donc ce web où n'accèdent que les pirates, ils achètent des adresses mail et parfois des mots de passe. Et bien, tout simplement, certaines adresses mail sont à ce moment-là piratées. Donc, ils envoient des mails à votre place. Et ça marche encore mieux, parce qu'effectivement, c'est même pas un groupe ou une entreprise qui vous écrit, parce que là, c'est quelqu'un que vous connaissez.
Exactement, et c'est la même adresse.
Voilà, et ça s'est reproduit encore récemment sur Facebook, où justement, vous avez un lien qui vous est envoyé. Facebook, c'est quand même le plus intime qu'on peut avoir, ce sont ses propres amis, où là, on vous redirigeait justement vers un site, et en fait, ce n'était pas votre ami qui vous a envoyé ça. Et c'était une vidéo en plus, donc là, clairement, l'échange de vidéos sur Facebook, c'est quotidien. Une vidéo de chat, vous appuyez dessus, vous êtes content. Le problème, c'est que vous allez tomber dans le panneau. Et justement, derrière, c'était pour récupérer de l'argent et c'était potentiellement un virus. Donc ça, effectivement, appelez votre ami, c'est la première chose. L'orthographe, encore une fois, je le répète, mais très souvent, il y a des fautes d'orthographe, donc ça doit nous alerter. Et évidemment, il faut toujours, toujours, toujours contacter, si vous n'arrivez pas à contacter la personne, contacter les proches, parce que ce n'est pas normal qu'elle vous contacte par mail.
Bien sûr.
En général pas le premier moyen pour demander de l'aide, en général.
Quels sont les autres conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs ?
Je vais vous donner deux conseils. Par exemple, pour Air France, qui est une compagnie très connue pour des billets d'avion, il faut savoir que les pirates, en fait, cherchent aussi à faire des grosses arnaques. Les billets d'avion, c'est des fortes sommes. Des téléphones portables et des produits high-tech, c'est des fortes sommes. Donc, qu'ont fait les marques ? Parce qu'elles ne sont pas restées comme ça à rien faire pendant des années. Elles aussi, en fait, subissent clairement ces tentatives de phishing. Et bien, sur la plupart des sites des marques, Fnac, Darty ou Air France, vous allez sur l'onglet sécurité en bas. Et en fait, on vous donne aujourd'hui toutes les adresses avec lesquelles Air France ou le groupe Fnac, Darty va vous écrire officiellement.
Okay.
Donc, typiquement, vous allez avoir, magasin Fnac de, levallois@fnac.com. Donc ça, c'est un mail officiel. Si, par contre, vous recevez un mail d'une entreprise dont vous n'êtes pas sûr, eh bien là, vous pouvez l'envoyer très souvent. Ils ont mis une adresse mail, ces entreprises-là, et ça s'appelle abuse@lenomdelentreprise.fr. Et en fait, ça, c'est des équipes dédiées à qui vous dites, en fait, mais je pense être victime d'une tentative de phishing. Est-ce que c'est vraiment vous qui m'avez envoyé ce mail-là ? Et en général, ils vous répondent. Ça m'est arrivé, par exemple, pour une tentative d'escroquerie avec un faux site Air France. Ils m'ont répondu en disant non, ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, on va faire des poursuites judiciaires sur ce site qui n'était pas le site officiel d'Air France. Ça, c'est la première chose. Et les pouvoirs publics aussi ont fait des choses, évidemment. Il y a un site qui s'appelle phishing-initiative.fr. C'est le ministère de l'Intérieur qui a mis ça en place. Où là, vous pouvez entrer l'URL, donc en gros, l'adresse qu'on vous donne, et notamment une adresse mail. Et on vous dit si oui ou non, il y a un risque potentiel que ce soit une arnaque.
Merci beaucoup, Arnaud Touche, pour tous ces conseils.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes.
Alors, comme chaque semaine, je félicite Alexandra Polaczyk, productrice de cette émission, qui s'occupe aussi de l'habillage musical. Je me demandais ce que Pascal Obispo et Zazie avaient à faire avec le sujet qui arrive. Mais nous parlons effectivement des faux amis dans l'alimentation. Avec vous, Laurence Plumet. Merci d'être avec nous, Laurence.
Mais
bon, alors
plaisir.
Dis donc, maintenant, grâce à Arnaud Touche, on sait comment faire déjà pour se protéger des mails et des appels frauduleux. Mais grâce à vous aussi, on va apprendre à se protéger des faux amis dans l'alimentation. Parfois, on croit consommer des aliments bons pour notre santé, que nenni que chi, c'est pas du tout le cas.
Oui, surtout que les étiquettes sont assez peu transparentes, les gens comprennent rien. Donc, et comme 70% de ce qu'on mange maintenant est d'origine industrielle,
Eh bien,
on ne se doute pas parfois des quantités de gras et de sucre que l'on peut consommer à son insu.
C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. On y va, je vais vous poser plein de questions très claires et vous allez pouvoir répondre pour nos auditeurs. Je vous conseille vraiment d'être attentif. Les céréales au petit-déj.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est bien ? Alors vous allez me dire, ça dépend lesquelles.
Eh bien, c'est exactement ça que je vais vous répondre. Ça dépend desquelles.
Ouais.
Il y a des céréales qui sont riches en sucre, il y a des céréales qui sont riches en sucre et en gras, il y a des céréales qui sont pauvres en sucre et en gras, et il y a des céréales qui sont type muesli, avec des oléagineux, un peu de chocolat, riches en fibres, et somme toute assez peu grasses et assez peu sucrées. Alors, comment faire la différence entre tout ça ?
S'il vous plaît.
Eh bien, on va aller regarder l'étiquette. On va regarder. Alors d'abord, bien sûr, il y a les applications, mais quand on achète un produit, on n'achète pas du vert, de l'orange et du rouge. On achète un produit qui nous fait plaisir. Donc on va regarder l'étiquette. Et alors en l'occurrence, on va regarder la ligne lipide, qui est le gras.
D'accord.
Et on va regarder la ligne sucre simple, qui est le sucre. Et on va regarder non pas pour 100 grammes, puisqu'on ne mange pas 100 grammes, mais une portion de céréales, c'est quoi ? C'est entre 30 et 50 grammes.
D'accord.
C'est en gros deux poignées.
Donc on divise par deux.
En général, même plus que ça.
D'accord.
Puisqu'en général, les portions qui sont indiquées sur les emballages sont de 35 grammes.
Okay.
Là, c'est deux petites poignées. Voilà.
Okay.
Donc si on les respecte, alors on regarde. Alors, sucre, alors, c'est très simple. Un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Donc si sur la ligne sucre simple, vous voyez par exemple que par votre portion, vous vous avez 15 grammes, ça veut dire que dans votre bol de céréales, vos deux poignées, vous aurez donc 3 morceaux de sucre.
C'est
vous
énorme.
Bon, les lipides, c'est pareil, vous regardez, la petite plaquette de beurre, c'est toujours l'unité, ça fait 10 grammes. Si vous voyez que par portion, en général c'est rare dans les céréales, elles sont assez souvent un peu grasses, quand vous voyez 10 grammes par portion, ça veut dire que vous avez l'équivalent d'une petite plaquette de 10 grammes dans votre portion consommée. C'est évidemment beaucoup trop. Mais, ceci dit, le sucre, on en a quand même envie et plaisir à manger. Donc, mon conseil, c'est pas de se priver de céréales, c'est d'aller choisir celles qui sont un peu moins grasses et un peu moins sucrées, mais celles qui nous font plaisir en priorité, et surtout de ne pas remplir le bol pour ensuite mettre un chouïa de lait. On met d'abord le lait et ensuite on met deux poignées de céréales. Et là, ça ira très bien.
Très bien. Les smoothies, c'est bon pour la santé, les smoothies. Les enfants, ils en réclament plein, on leur en fait parce que c'est plein de fruits.
Alors, tout dépend de ce qu'on met dans le smoothie. Si vous mettez plein de fruits, vous retirez les fibres et vous avez le concentré, finalement, de sucre naturel de ces fruits dans un verre. Donc, ce qui fait que quand vous mettez une demi-banane, une demi-pomme, un ou deux kiwis et d'autres fruits qui peuvent être de l'ananas, qui peuvent être assez sucrés, au total, dans votre verre, bien sûr, vous avez des vitamines, des minéraux et des oligoments, tout ce qu'il y a dans les fruits qui est très bon pour la santé, mais vous avez pas mal de sucre. Donc, attention au piège des smoothies.
D'accord.
Les fruits, c'est très bon pour la santé, mais à mon sens, si j'ai deux conseils à donner. Premièrement, c'est un verre dans la journée, pas trois, pas quatre. Et deuxièmement, faire un mélange de légumes et de fruits pour ne pas être tout fruits.
Ok, donc ça, vous me parlez des smoothies que je vais faire à la maison, mais
oui.
Les smoothies que j'achète ou que mes enfants achètent à l'heure du déjeuner en sortant de l'école.
Alors, quand c'est en bouteille, il n'y a jamais de sucre ajouté. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Ah bon ?
Mais bien sûr, il n'y a jamais de sucre ajouté dans les jus. Jamais.
D'accord.
En revanche, il faut faire attention à la nature de ce qu'il y a dans votre smoothie. Si vous avez un smoothie uniquement composé de fruits, vous aurez un tout petit peu de plus de sucre naturel des fruits que si vous avez un smoothie qui est un mélange de légumes et de fruits.
Okay,
vous voyez ?
D'accord.
Donc mon petit conseil, smoothie très bien, un verre par jour. On a toutes les qualités nutritionnelles des fruits, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais si on veut faire attention à l'aspect sucre au pluriel, on fait un petit mélange plutôt. Vaut mieux choisir les smoothies qui sont des mélanges de légumes et de fruits.
Bon, alors attention quand même, malgré tout, à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent surveiller leur ligne, parce que les portions qui sont indiquées sur les étiquettes des smoothies industriels sont de 100 ml. Or, un verre, il faut le savoir, c'est le double. Donc, on peut grimper jusqu'à 25 grammes de sucre, ce qui correspond à 6 morceaux de sucre dans un seul verre, soit la totalité de l'apport journalier recommandé. Donc, regardez quand même bien les étiquettes, ou au mieux, évidemment, privilégiez le fait maison. Dans un instant, si vous le voulez bien, on va parler des salades composées que tout le monde s'achète à l'heure du déjeuner. On va parler des steaks de soja et ces fameuses galettes de riz. Moi, le soir, j'adore me faire une petite galette de riz. Vous savez, un peu nappée de chocolat. Je me dis, c'est pas grave, c'est bon pour la santé. Vous nous direz si c'est vraiment le cas. À tout de suite.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Est-ce que vous savez comment cuisiner le riz ? Non ? Eh bien, Ligori va nous raconter ça dans un instant. Il est chef, Ligori. Il a un joli prénom italien, Ligori. Merci d'être avec nous.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
On ne se méfie jamais assez. C'est bien trop tard qu'on sent le danger.
C'est bien trop tard qu'on sent le danger. Merci Julien Clerc. Et oui, on ne se méfie jamais assez. On nous raconte plein de bêtises en réalité, notamment sur les étiquettes des produits que l'on achète. Et Laurence Plumet, vous êtes là pour nous avertir et nous alerter en tant que médecin nutritionniste. On parle des faux amis dans l'alimentation. Le midi, à l'heure du déjeuner, quand on prépare notre émission quotidienne du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 sur RTL, nous allons nous acheter une petite salade composée parce qu'on se dit que c'est meilleur pour notre ligne et notre santé. Est-ce que c'est une bonne idée, Laurence Plumet?
Ah, ça peut l'être, à condition que la salade composée soit à la hauteur de la promesse. C'est-à-dire que ça ne soit pas que de la salade verte, avec trois petits bouts de tomates et une vinaigrette dont vous ne connaissez pas la composition, finalement.
Okay.
Voilà.
Oui.
Mais en revanche, si la salade composée est à base de salade verte, certes, mais qu'il y a des tomates, du concombre, du maïs, plein de légumes, qu'il y a également un aliment riche en protéines qui va vous caler durablement. Parce que si vous ne mangez que des légumes, je peux vous assurer que deux heures après, vous avez faim.
Hein. Ouais.
Bon, donc si dedans, il y a un œuf dur, s'il y a suffisamment de thon, s'il y a une tranche de jambon, la vinaigrette aussi, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Si c'est de l'huile d'olive ou de l'huile de colza avec un peu de vinaigre, très bien, pourquoi pas.
Mmh.
Bon, et vous savez, c'est pas suffisant pour faire un repas. Donc ça, c'est très bien, mais le petit morceau de pain à côté, le fromage blanc et la salade de fruits, super, là vous avez fait un déjeuner équilibré.
D'accord, donc on n'isole pas la salade et surtout on essaie de la prendre vraiment composée, quoi.
Hein, voilà. Ça se voit tout de suite en général. Hein.
Steak de tofu, steak de soja, c'est bien ça ou
alors,
pas
Alors, steak de soja, pourquoi pas. Le soja en soi est un très bon végétal. animal. Il y a des bonnes graisses dedans, c'est riche en protéines. Ouais. Donc on arrive à faire des steaks de soja. Si on aime le goût, pourquoi pas? Il y a pas mal de protéines dedans. Voilà, si on aime le goût.
Et moi, mon steak de tofu que je prends à la place d'un steak...
C'est pas mal aussi. Bon, encore une fois, c'est une question de goût. Il y a un peu de protéines, il y a du calcium.
Alors, c'est quoi le problème? Vous avez l'air.
Non, pas du tout. C'est une question de goût. C'est parce que, bon, en France, on aime bien la viande, le poisson, les œufs.
C'est bon, le tofu.
Le tofu, si vous aimez à en prendre une bonne quantité, pourquoi pas?
Hein, d'accord. Arnaud Touche.
Oui,
vous
ça
êtes tofu, vous?
Non, pas trop tofu, mais steak, les steaks végétaux, j'ai goûté, j'avoue, il y a moins d'un an. Alors, c'est pas mal. Après, moi, j'aime beaucoup la viande aussi, donc c'est difficile en remplacement.
Est-ce qu'on cherche à remplacer? Pas forcément, en fait. Enfin, si, c'est ce que l'on dit pour ceux qui décident d'adopter un régime végétarien.
Ouais, d'accord. Alors, il y a un petit défaut par rapport à la viande. Bon, indépendamment du goût, mais ça, les affaires de goût, ça se discute pas. C'est le fer. C'est-à-dire que dans un steak végétal, vous aurez beaucoup moins de fer que dans un steak à base de viande, de bœuf.
Donc où est-ce que je peux trouver le fer?
Ça c'est le gros problème des végétariens, des végétaliens. D'accord. C'est qu'ils sont très exposés au manque de fer. D'accord. Alors le fer, ils vont vous dire qu'ils le trouvent dans les légumes secs, c'est vrai. Alors là, il faut manger des lentilles. Des lentilles, des haricots, des flageolets. Bon. On y va, on peut manger aussi des fruits de mer. Les moules sont très riches en fer, les huîtres aussi, les crevettes, pourquoi pas. Donc il y a plein d'alternatives, mais il faut vraiment penser au fer, parce que ça peut être un problème.
Message pour les pesco-végétariens. Alors, la fameuse petite galette de riz. Laurence Plumet. Que j'adore manger le soir. Non mais c'est vrai, c'est ce petit truc là comme ça, c'est du riz soufflé, on a l'impression que c'est super bon et puis là en plus ils nous ont fait un petit nappage de chocolat qui va bien. Arnaud Touche, vous êtes d'accord?
Oui, chocolat au lait ou chocolat noir selon vos préférences.
On est bien d'accord, Ligori, vous connaissez.
Chocolat noir, oui,
voilà. Je ne sais pas, il y a une sorte de folie de la galette.
Oui. Bon, c'est plus à considérer comme une friandise, hein. Ça ne doit pas être le cœur du repas.
Moi, j'ai l'impression que c'est une gourmandise qui n'est pas calorique. Et pourtant, 80 grammes de glucides pour 100 grammes de galettes, c'est énorme. En fait, c'est une déception, moi, je trouve, les galettes de riz. Et pourtant, qu'est-ce que je les aime? Alors, mollo sur la galette. Les sushis, ceux qui nous écoutent, là, qui sont un peu fous de sushis en se disant « je mange équilibré ».
Ça nous fait manger du poisson cru et surtout du saumon. Voilà. Et le saumon, c'est très riche en oméga 3 et en vitamine D.
Ils sont un peu pourris, les saumons, Laurence.
Non, pas tant que ça. Ça dépend du saumon que vous achetez.
D'accord.
En général.
Enfin, j'ai pas la garantie quand je regarde mon maquis que j'ai du saumon sauvage.
Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans n'importe quel restaurant japonais et qu'il faut être sûr de la qualité du poisson que vous consommez. Ouais, parce que le poisson cru véhicule aussi des parasites.
Donc,
il faut être sûr de la qualité du poisson que vous consommez. Quant au riz qui est dessous, ça, c'est du riz qui est cuisiné avec du vinaigre de riz beaucoup et dans lequel il y a un petit peu de sucre. Quand on se tape une belle assiette de sushi avec pas mal de riz, hein, parce que les petites boulettes comme ça, on n'y prend pas garde, mais au final, sur l'assiette, ça fait pas mal de riz. Ça fait l'équivalent quand même en sucre de 2 à 3 morceaux de sucre dans une assiette.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vivre d'amour, de musique et de riz complet.
Le riz complet, et pas que complet. Ligori, vous êtes chef du site cuisineaz.com, vous êtes également auteur culinaire. Le riz, il n'y en a pas que dans les sushis. C'est quoi le riz? C'est un féculent?
Alors le riz, c'est un féculent, c'est une céréale. En fait, pour résumer, faire simple, c'est le fruit d'une plante longiligne qui peut être de 50 cm à peu près 5 mètres. Ouais. Il y a des milliers de variétés différentes. Une céréale vraiment millénaire en Asie. Mmh. Et donc oui, ça fait partie des féculents de notre alimentation.
D'accord, il y a plein de variétés de riz en fait?
Il y en a des milliers, il y en a même beaucoup de façons différentes de les classer. Ouais. Rien que ça, c'est déjà assez compliqué. Moi... Enfin, en fait, vous pouvez le classer selon leur taille, selon leur forme, selon leurs origines, le traitement. Moi, ce que je propose aux gens, c'est de retenir deux facettes pour les classer. Il y a un riz qu'on appelle indica, qui regroupe plutôt les grains qui sont longs, moyens, mais assez étroits.
D'accord.
Et les riz japonica, qui sont eux plutôt courts, assez ronds.
D'accord.
Voilà, vous avez bien compris le principe. Donc ça, c'est les deux grandes catégories. Et après, dans tout ça, vous allez pouvoir... reclassés avec les riz padis, c'est ceux qui sont encore recouverts de toute leur enveloppe naturelle, donc un mangeable comme ça, les riz complets avec le germe et le son, les riz bruns, les riz blanchis, les riz étuvés, enfin voilà, il y en a vraiment des centaines de façons de les classer aussi.
Et moi je suis complètement paumée dans tous ces riz et j'aimerais bien sortir de l'éternel riz thaï ou riz basmati et essayer d'autres choses. Vous allez nous parler de cuisine dans un instant. Les intérêts nutritionnels du riz?
Ils sont indéniables. Alors, c'est déjà une céréale sans gluten. On parlait de beaucoup de choses, beaucoup de régimes différents en ce moment. C'est une céréale sans gluten qui est plein d'antioxydants aussi. Et plus il est complet, plus il va contenir d'éléments nutritionnels sympathiques, sels minéraux, vitamines, etc.
D'accord. C'est indispensable pour une bonne santé, le riz, Laurence Plumet?
Ah oui, le riz, comme les autres féculents, hein, ça fait partie de notre alimentation. Il faut manger tous les jours au moins une belle assiette de féculents par jour. Soit à midi ou le soir, plutôt midi, parce qu'on doit carburer l'après-midi. l'après-midi, soit ou alors on fait féculents et légumes à midi et féculents et légumes le soir.
D'accord.
C'est très important parce que c'est une source d'énergie, c'est de l'amidon, hein, ce sont des glucides, et je tiens d'ailleurs à signaler que parmi toutes ces variétés de riz, elles ont toutes à peu près le même niveau d'apport calorique.
D'accord.
Donc, en calories, c'est pareil.
C'est ce que j'allais vous demander.
En protéines,
justement.
C'est à peu près pareil.
C'est pas très calorique.
Bon, ça dépend. Enfin, non, mais de toute façon, on s'en fiche. Ouais. Ça fait partie de l'apport calorique dont nous avons besoin tous les jours.
D'accord, hein. Ok.
Donc on s'en fiche, on compte pas les calories, c'est la portion quotidienne à prendre.
Les alternatives au riz en matière de féculents, pour ceux qui nous écoutent?
Les pâtes, la semoule, les légumes secs.
Très bien.
Je suis bien sur les légumes secs.
Très
et
bien.
Les pommes de terre.
Ok, super. Comment ça se conserve le riz, Ligori?
Comment ça se conserve? Alors, à savoir que le riz blanc va pouvoir se conserver beaucoup plus longtemps qu'un riz complet.
Ok.
Parce que justement, ce son va rancir plus vite. Donc, sur un riz blanc, on n'a pas.
Ouais.
Moi, à la maison, ma femme m'a converti au bocaux, zéro déchet. Donc
vous êtes mariée, Ligori?
Oui.
Non, je rigole.
Donc, dans un bocal hermétique en verre, ouais. Ça conserve très très bien.
D'accord.
Pour le riz complet, on va parler de plusieurs mois. Du riz blanc, même si vous ne l'avez pas mangé après un an, ça conserve encore sans problème.
D'accord, ça peut se conserver à la lumière, on n'est pas obligé de le conserver dans l'obscurité.
Alors chez moi, il est plutôt dans un placard, mais...
D'accord, ok, il n'y a pas d'indice de conservation, en
non,
tout cas plus précis. On met combien de grammes de riz par personne? Alors moi, je ne sais pas vous, mais alors j'ai du mal avec les doses, c'est un enfer. Quand j'en fais pour tout le monde, on en a pour une semaine.
Alors,
c'est super difficile, je trouve, c'est pas comme les pâtes.
On parle souvent de, on va dire, environ 50 à 60 grammes de riz cru par personne.
Ok.
Après,
bon,
ça va dépendre
ça
des mangeurs qu'on a à table,
ouais.
Si on y ajoute plein de légumes, si c'est le seul élément qui va accompagner la viande. Le truc, c'est peut-être de le peser une fois dans un petit verre, et vous gardez ce verre-là, puis vous saurez exactement combien...
Voilà, c'est la dose classique. 50-60 grammes, ça revient à quoi?
Alors oui, dans l'assiette, une portion de féculents, c'est environ 200 grammes. Et comme au contact de l'eau, ça
gonfle,
c'est poids
ouais.
fois 3.
D'accord.
Donc, ça rejoint ce que disait Ligori, c'est-à-dire qu'on part au départ de 60 grammes crus.
D'accord.
60 fois 3, ça fait 180, ça fait 200 grammes. Dans l'assiette, c'est parfait.
Très bien. Alors maintenant, je veux des conseils de cuisine. Maintenant que je sais que c'est bon pour la santé, je veux des conseils. Je veux savoir comment on fait le riz pour qu'il ne colle pas. Je veux savoir s'il faut vraiment le rincer quand il est cuit. Et puis, vous allez nous donner des recettes. Ce sera tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Merci d'être avec nous. Ah là là, dans un instant, vous allez avoir envie de cuisiner le riz grâce à vous, Ligori.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous avez du riz complet?
Du riz quoi?
Du riz brun.
Non, on n'a pas de riz brun, on a que du riz blanc.
Bon, bah, donnez-moi des pâtes,
alors. Bon, bah, voilà, c'est Miu Miu et Jean Lefebvre dans le film Quelques messieurs trop tranquilles. Les pâtes, c'est l'alternative, effectivement, aussi au riz en matière de féculents. On en parle avec vous, Ligori, parce que vous êtes là pour nous expliquer justement comment le cuisiner. Maintenant que vous nous avez raconté l'intérêt d'intégrer vraiment le riz à notre alimentation, comment je fais pour le cuire? Parce que vous êtes chef. Alors, vous allez peut-être m'expliquer comment je peux faire pour pas faire du riz gluant à tous les coups.
Alors, ouais, il y en a vraiment beaucoup de façons de le préparer. Je trouve que le riz a toujours véhiculé un peu une image un petit peu négative. J'ai bossé pour plein de gens qui me disaient le riz c'est un plat de pauvre entre guillemets.
Ouais.
Et je trouve que c'est un super défi parce qu'on peut faire des milliers de choses avec, aussi bien en salé qu'en sucré. Et c'est vraiment un produit qu'on peut un peu sublimer dans les recettes. Donc faut pas hésiter à le cuisiner. La façon la plus simple, je pense que vous faites tous ça à la maison, c'est le cuisiner de façon créole, on appelle ça.
Mmh.
C'est de mettre de l'eau bouillante salée, le mettre dedans voilà, une dizaine de minutes. Mais vous avez aussi une cuisson pilaf qui peut être appliquée, on peut faire du riz sauté.
Alors expliquez-nous la cuisson pilaf.
Alors pilaf, là du coup, il va vous falloir un plat qui pourra aller au four. Du coup, on va y mettre un oignon, on va faire revenir un petit peu le riz à cru dans une matière grasse. Et ensuite, en ajoutant, moi je conseille un bouillon, pour le parfumer, on va passer ça au four et le laisser cuire jusqu'à évaporation de l'eau. Et puis après, vous y égrainerez vos petits grains avec un petit peu de beurre, ça sera parfait.
Très bien. Et sinon, le riz sauté? Parce que moi, vous savez, je le fais dans une poêle, je mets un peu de beurre, un peu d'oignon, un peu d'échalote, un peu machin. Après, je mets mon riz, après je recouvre d'eau. Mais c'est dans la poêle, c'est le riz pilaf, ça?
En fait, le riz pilaf, on ne le saute pas forcément. Après, vous pouvez réaliser cette recette-là. Et s'il est sauté après, c'est juste histoire de l'enrober encore une fois. Et de
ok.
Le,
quand
de
je fais colorer. Sauter mon riz, il a déjà été cuit?
Oui. Mais il y a certains pays, certaines contrées qui le sautent avant pour lui donner d'autres arrière-goûts avant de le cuire classiquement.
Comment je fais pour qu'il ne colle pas, pour avoir des beaux grains de riz dissociés les uns des autres?
Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un produit qui est très chargé en amidon. Pour certaines recettes, on va conseiller de le rincer avant plusieurs fois. Donc pour ça, vous le mettez dans de l'eau, vous le frottez entre vos mains, ouais, c'est très agréable et très relaxant en plus, et l'eau va devenir toute blanche. Si vous réitérez l'opération, elle va devenir de moins en moins blanche, et pour cette recette, on peut faire ça 2-3 fois, et l'eau deviendra de plus en plus translucide.
D'accord, ok, donc ça c'est pour que
le riz collera plus en fait, enfin, il y aura toujours assez d'amidon pour coller dans certaines recettes, mais plus vous allez le laver, plus il va en perdre, et moins il collera après cuisson.
Et qu'est-ce que je fais de mon eau de cuisson avec de l'amidon? C'est bon pour la santé ça, non? Quand on a mal au ventre ou non?
Oui, c'était utilisé autrefois pour lutter contre les diarrhées.
Bah c'est ça, pour les enfants, on leur dit toujours de l'eau de riz.
De l'eau de riz, ouais. Parce que ça fait un peu gélatineux, en fait. Quand ça refroidit, ça gélatinise un petit peu.
D'accord. Une fois que mon riz il est cuit, faut que je le rince à l'eau froide ou pas?
Alors moi, je ne le rince jamais à l'eau froide. Ce qu'on vient de dire avant, en fait, on peut le rincer avant cuisson pour perdre l'amidon, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt de le rincer après cuisson.
Et je mets quoi? Je mets du beurre ou je mets de l'huile?
Ah bah ça sera en fonction de vos goûts.
On part sur des recettes?
Alors moi je suis venu avec un véritable risotto qu'on pourra accompagner avec ce que vous voulez en produit de saison, mais déjà bien comprendre ce que c'est qu'un risotto, comment on le réalise, et après vous allez pouvoir en faire des centaines de recettes une fois que vous avez bien senti.
Il faut un riz spécial pour ça?
Oui, moi j'utilise un riz arborio, vous avez aussi un riz qui s'appelle le carnaroli, qui est un riz italien mais qu'on appelle le prince des riz, qui est un peu plus cher. Okay. L'arborio est un riz qui est vraiment top pour tout ce qui est risotto, donc utilisez celui-ci.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
D'abord on va ciseler finement un oignon, qu'on va faire revenir dans un filet d'huile d'olive et de beurre. Moi, j'aime bien mettre les deux. Pourquoi un petit peu de beurre? Parce que ça vient aussi du nord de l'Italie et il y a aussi du beurre dans le nord de l'Italie, pas que de l'huile d'olive. On va y faire revenir nos oignons et on va faire ce qu'on appelle nacrer le riz. Donc, on ajoute le riz, on va le faire cuire et revenir dans ce corps gras pour le torréfier un petit peu. Il va devenir un petit peu translucide. Et en parallèle, vous faites chauffer votre bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de bœuf, pour le reste de la recette. Donc une fois que votre riz est enrobé et un petit peu torréfié, vous allez déglacer une première fois avec un verre de vin blanc. Vous allez laisser le vin s'évaporer jusqu'à retrouver votre riz au fond de la casserole. Tout ça est à feu moyen. Ensuite, vous allez ajouter votre bouillon petit à petit, louche par louche. En général, on dit qu'il faut à peu près 7 fois, il faut à peu près mouiller 7 fois son risotto.
D'accord.
Vous allez mouiller juste à hauteur, vous allez laisser réduire tout en mélangeant tranquillement, okay. Et recommencer l'opération environ 7 fois. Normalement, le temps de cuisson d'un risotto, c'est 18 minutes.
Donc pendant 18 minutes, je suis devant mon riz et j'arrose mon riz.
C'est un plat qui demande beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. 18
D'accord.
minutes sur la journée, je vous garantis okay. que ce sera un résultat parfait.
D'accord, et puis on emballe à tous les coups, donc ça vaut le coup. Ok, d'accord. Donc une fois que j'ai cuit mon riz.
Il y a parfois deux écoles, les gens me demandent souvent est-ce que je mets de la crème, est-ce que je mets pas de crème, etc. Donc non, on met pas de crème, on y rajoute là du beurre et du parmesan, et en fait c'est ça qui va pouvoir lier l'ensemble de votre risotto.
D'accord. Après je l'agrémente de légumes.
Exactement.
De alors, saison, évidemment.
Alors moi en ce moment, ce que je peux vous proposer, c'est une première partie, ce serait un petit morceau de rouelle fondante de cochon fermier, vous mettez ça à côté. Et puis pour tout ce qui est légumes, j'adore les crônes, en ce moment je trouve ça très bien, ça c'est facile à réaliser et à cuisiner.
Comment on les cuisine pour ceux qui nous écoutent?
Alors il faudra bien les frotter, une fois que vous les avez achetés, vous les frottez légèrement. Alors il y en a qui les blanchissent à l'eau une première fois, mais vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez aussi les faire sauter tranquillement à la poêle, ça marche aussi, vous couvrez ça et ça sera très facile.
Avec modération parce que ça fait quelques désordres.
Oui, exactement.
C'est vrai, non pardon, je suis désolée, le crâne fait péter, donc voilà. Comme ça au moins on l'aura dit, donc
il faut
on
le
se
dire,
méfie, on n'en met pas trop. Non mais c'est vrai, non mais pour ceux qui nous écoutent quand même, qu'on n'ait pas des messages à prendre, c'est sympa votre risotto, mais enfin voilà. Donc on va mollo sur les crânes, mais c'est vrai que c'est délicieux.
Mais
donc
c'est pas un légume.
Non, c'est une racine.
Oui.
Alors donc, si on met des crônes.
Voilà, ensuite quelques morilles et un petit peu de poireaux frits au-dessus pour décorer tout ça.
Ça coûte cher, ça, ce plat ou pas?
Pour tout ce que je vous ai dit là, vous serez en dessous de 5 euros par personne, c'est sûr. On a utilisé des produits qui ne coûtent pas très très cher. Et en plus, la rouelle, c'est 5 euros le kilo environ. Donc, c'est aussi pour ça que je suis parti sur cette recette-là.
Très bien. Merci beaucoup, Ligori. Bon, on s'embrasse quand même, Arnaud Touche.
Évidemment.
Non, mais parce que nous, on se voit souvent. Mais
évidemment.
Bon, on se fait encore
toujours
des bisous.
Toujours avec plaisir.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, Arnaud Touche. Je rappelle que vous êtes de la maison, vous êtes journaliste au service Éco d'RTL. Je vous embrasse. Gros
également,
bisous. Merci beaucoup, Laurence Plumet, d'avoir accepté notre invitation. Le grand livre de l'alimentation et comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport, ni les légumes, aux éditions Erol. Merci beaucoup. Et puis, Ligori, merci d'être venu. Je rappelle le site cuisineaz.com, parce que vous y êtes donc chef et auteur culinaire. Merci les gorilles.
Merci à vous.
À bientôt. Comment dire au revoir en italien? À bientôt. Arrivederci. Allez. Vous n'avez pas tout retenu de cette émission? Eh bien, rendez-vous sur le replay sur RTL.fr et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bon week-end, évidemment. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, le magazine du partage et de la réflexion. Et puis la semaine prochaine, évidemment, dès 9h15 dans Nous voilà bien. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. Bonne journée.